Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, c'est l'édition spéciale de Studio Tamani qui se poursuit. Vous suivez nos programmes en live sur Facebook et sur 85 radios à travers le pays. C'est le Grand Dialogue maintenant et nous allons parler de l'armée et le pouvoir. Les invités vont donner leur point de vue sur ce sujet. Et nous avons comme invité M. Mahamadou Konaté, directeur général de Conseil Donko pour la gouvernance et la sécurité. Mahamadou Togola, coordinateur national de WANEP Mali, et Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Au cours du débat, Astoufoune Samake, ancienne ministre femme politique, devrait nous rejoindre. Je suis Mohamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Mahamadou Konaté, l'armée malienne a 60 ans. Ce 20 janvier 2021, qu'est-ce que le 20 janvier représente pour les Maliens aujourd'hui, avec le contexte marqué par la crise sécuritaire notamment ?
Il représente l'occasion de méditer sur les 60 ans de notre armée nationale, avec beaucoup de soucis, avec un peu de déception, pour ne pas dire assez de déception, parce que la raison d'être d'une armée, c'est la sécurisation du territoire national et des personnes de leurs biens. Malheureusement, à l'état actuel ou dans la situation présente, cette mission est loin d'être accomplie. À Bamako, qui est la capitale, où nous avons assez de forces de sécurité présentes, où nous sommes loin des foyers des groupes terroristes, l'insécurité bat son plein. Et il est rare qu'une semaine se passe sans qu'il y ait des braquages, en pleine journée. Et vers le reste du sud, vous allez vers Sikasso, Ségou. Ségou, c'est un peu aussi le centre. Le niveau d'insécurité va grandissant. C'est vrai que ces derniers temps, il y a moins d'affrontements intercommunautaires, mais il y a plus d'attaques terroristes sur la population civile, et parfois sur l'armée. Donc c'est l'occasion de s'interroger sur la capacité de notre hiérarchie militaire à se hisser à la hauteur de la mission qu'on leur a confiée. Ça fait longtemps qu'on parle de réformes. Alors pourquoi ne voyons pas jusqu'à aujourd'hui les résultats de cette réforme ?
Justement, par rapport aux résultats, on va y revenir et on donne la parole à Mohamed Mamata Touré. Votre association intervient notamment dans la région de Mopti. Qu'est-ce que les habitants de cette localité qui est frappée par l'insécurité pensent de l'armée malienne ?
Et bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, comme vous venez de le dire, la population de la région de Mopti, comme un peu une bonne partie de la région de Ségou aussi, donc elles pensent toutes que nous avons une armée qui doit être au service de la population. Mais nous voyons une armée qui n'est pas au niveau souhaité. Donc une armée qui s'affaiblit et une armée qui n'est pas présente sur tous les fronts aussi où elle doit être. Donc les populations de Mopti s'attendent plus à une armée qui va les sécuriser, qui va sécuriser leur bien aussi. Mais nous voyons que à travers les événements des terroristes ou des djihadistes ou même des bandits armés, partout où l'armée doit intervenir, nous voyons qu'il y a un vide qui est là. Même si les villages sont attaqués, si on fait appel à cette armée, on voit que ça prend du temps, quelques jours, sinon des fois même l'armée ne se présente même pas sur le lieu pour pouvoir essayer de soutenir la population qui s'est fait protéger maintenant par des milices d'Onzo ou bien des milices formées par les villageois ou des gens qui sont sur les lieux. Donc, dans cette zone, nous pouvons juste dire que l'armée qui est là, vraiment, a besoin d'être renforcée, a besoin d'être mise dans les conditions pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de cette population qui est là. Le besoin, c'est quoi ? Une armée, il faut qu'aujourd'hui, 60 ans après, il faut qu'aujourd'hui nous ayons une armée qui se trouve dans des camps dignes de ce nom, une armée qu'on sert en eau, une armée à laquelle on donne à manger à sa faim, une armée qui doit être une armée proche de la population aussi. Parce que nous voyons qu'il y a une distanciation entre l'armée et la population. Et souvent, la population même a peur de collaborer ou même d'approcher l'armée parce que, et que ce soit la population civile qui est là en danger, que ce soit les milices qui sont là ou même les terroristes qui sont là, tout un chacun ne voit l'armée qu'en ennemi. Au lieu que l'armée soit proche de la population, l'armée crée une distance. C'est pourquoi on voit chaque fois qu'on tombe sur l'armée, on frappe sur l'armée. Les populations savent bien qu'il y a des bandits ou bien des terroristes qui sont là, qui veulent attaquer, mais comment faire pour pouvoir donner les bonnes informations ou les renseignements à l'armée? Même si on leur donne les informations ou les renseignements, est-ce que cette armée profite de ça? Est-ce que cette armée travaille avec leurs informations? Ça aussi, c'est un grand problème. Et les populations qui sont au centre, dans la région de Mopti et puis une bonne partie de la région de Ségou, vraiment, elles sont une population qui sont laissées presque à elle-même.
Au lieu d'être proche des populations, l'armée est vue comme un ennemi par une partie de la population du centre du Mali. C'est ce qu'estime M. Mohamed Mamata Touré, qui est le président de l'association Anko Mali. Mahamadi Togola, est-ce que vous partagez l'avis de M. Touré ?
D'accord, merci bien Mahamadou de m'avoir donné la parole. Effectivement, comme les prédécesseurs viennent de le dire, en réalité, je partage les mêmes visions. Parce que nous sommes en train de fêter cet anniversaire de l'armée malienne dans un contexte assez particulier. C'est une transition politique, bien entendu, mais aussi les défis sécuritaires demeurent. Malgré ou bien en dépit vraiment de la présence des forces étrangères, en présence aussi des partenaires et pays amis du Mali, nous constatons quand même une recrudescence de la violence dans toutes ses formes. Bon, ONEP, en tant qu'organisation de la société civile, déjà, si je me réfère, parce que nous avons un système national d'alerte précoce qui nous permet quand même de collecter des incidents, des informations relative aux problèmes de sécurité. Donc, en retournant un peu dans les 6 derniers mois, nous avons pu quand même enregistrer à travers ce système d'alerte précoce plus de 185 incidents majeurs dont les victimes sont à la fois les forces de défense et de sécurité, mais aussi les populations civiles. Et comme Touré vient de le dire, en réalité, il y a des réformes qui ont été amorcées, mais jusqu'à présent, la perception, on n'arrive pas à percevoir les dividendes de ces réformes-là au niveau local. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, on constate quand même une certaine distance entre les forces de défense et de sécurité et les bénéficiaires, n'est-ce pas, et les usagers de ces services, que sont les populations. Donc, je pense que à ce stade, il conviendrait vraiment de travailler encore à renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations, parce que, comme il a si bien dit, en réalité, de mon point de vue, l'armée doit être vue comme une force protectrice, parce que c'est leur rôle, c'est leur mission régalienne, la protection des personnes et de leurs biens. Mais tel n'est pas le cas à l'intérieur du pays. On se rend compte qu'il y a ce déficit de confiance. Souvent, les forces de défense et de sécurité sont perçues comme des prédateurs dans pas mal de régions, n'est-ce pas, et à travers le pays. Bon, la sécurité, dans le temps, on disait que c'était la crise du Nord. Ça a déplacé vers le centre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des incidents, des attaques isolées, même dans les régions du centre et du sud du moins, à Sikasso, à Yoro, à Yema. Et nous assistons vraiment à des cas de violence, surtout des attaques perpétrées par des groupes radicaux violents, avec des victimes qui sont majoritairement des civils, mais aussi des forces de défense et de sécurité. Donc aujourd'hui, dire que l'armée malienne est sur le terrain, en train de mon point de vue, elle est en train de s'organiser aussi pour mieux faire face aux défis sécuritaires. Mais comme vous le savez, savez, le contexte est tel que ce n'est pas des conflits classiques, ce n'est pas aussi des formes d'insécurité classique où une armée peut véritablement intervenir efficacement sans l'appui et surtout la confiance des populations pour lesquelles elle est là.
Une armée qui est vue par une partie de la population comme ennemie, est-ce que vous pensez que ces habitants qui voient l'armée malienne comme ennemie ont raison de la voir ainsi?
Écoutez, je pense qu'il faut... déjà, quand une partie, c'est qu'on relativise. Hein. À ma connaissance, c'est principalement des membres d'une communauté qui se sent stigmatisé, malheureusement, dans la lutte contre le terrorisme. Et cela est peut-être compris, et je pense que ce n'est pas un secret. Il y a des rapports de l'armée, des rapports d'ONG et même de l'aménagement qui mettent en relief les différentes atteintes aux droits humains et aux règles de droit international humanitaire par certains membres de personnel de l'armée. Voilà. Et c'est regrettable, hein. Même la hiérarchie militaire le reconnaît, c'est regrettable. Il y a des actes de barbarie, malheureusement, commis par certains parmi les soldats déployés sur le terrain. Quand on dit ça, il faut aussi dire que de l'autre côté, en face, il y a autant d'exactions aussi commises par des membres de groupes armés terroristes et parfois même de groupes armés d'autodéfense, hein, de certaines communautés. Que ce soit certains d'Onzo, que ce soit d'autres groupes d'autodéfense. Donc ça crée une atmosphère locale de suspicion mutuelle, de méfiance, et bien sûr, je suis d'accord, d'insatisfaction. Hein, non seulement parce qu'il y a des actes répréhensibles commis par les forces de défense et sécurité, en tout cas certains. C'est un membre des forces de défense et sécurité, mais aussi il constate que ces forces de défense et sécurité sont incapables d'assurer la sécurité.
Le sont-elles?
Le constat, des populations locales, c'est bien qu'elles sont incapables, parce que les populations locales continuent à subir les attaques des groupes terroristes.
Justement, depuis 2012, la situation s'est-elle améliorée positivement ou est-ce qu'elle s'est détériorée davantage?
Je pense que globalement, elle s'est détériorée. Je pense qu'elle s'est détériorée. Et c'est paradoxal.
Et où se situent les responsabilités par rapport à ça?
Elles sont à différents niveaux. Mais pour moi, la responsabilité principale incombe à l'État malien, incombe à la gouvernance de l'État malien, et notamment la gouvernance militaire, la gestion des affaires militaires.
Aujourd'hui, un militaire à la retraite est le président de la transition, un militaire est le vice-président de la transition. Est-ce que les militaires sont également membres du gouvernement? Est-ce que cela pourrait changer quelque chose dans cette gouvernance militaire que vous dénoncez?
Je souhaite, je l'espère.
Mais vous n'y croyez pas?
Écoutez, me titillez beaucoup ce sujet-là. Je comprends, je souhaite que, avec ce changement de décor, je ne sais pas seulement le décor, qu'un changement dans la gestion des affaires militaires puisse également connaître un nouveau jour.
Vous espérez un changement positif?
Je l'espère.
On va demander à Mohamed Mamata Touré si lui, il pense qu'avec l'arrivée des militaires, entre guillemets, au pouvoir, pourra changer quelque chose dans la gouvernance militaire.
Bon, l'arrivée des militaires au pouvoir, pour moi, même si ça peut changer quelque chose, mais ça, c'est pas grand chose et c'est pas du tic au tac. C'est pas maintenant. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Parce que cette armée que ces nouvelles autorités sont venues trouver, donc le vice-président qui est Assimi, le ministre de la Défense, le président du CNT, eux tous étaient là pendant et avant Ibeka ou même sous Ibeka. Ce sont eux qui étaient sur le terrain. Ils connaissent mieux la réalité du terrain que n'importe qui. Les difficultés qui sont sur le terrain, ils le connaissent bien aussi. Donc maintenant, en un temps record, dire qu'ils peuvent étouffer ce qui se passe sur le terrain, ça va être un travail vraiment dur et difficile. Donc, parce que maintenant, pour pouvoir gérer toute cette situation, il faut avoir au moins du personnel. Du personnel militaire, il faut qu'il fasse des recrutements. Et puis, il faut que des conditions soient beaucoup choisies pour être mises à la disposition de ces nouveaux recrues. Bon, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile en aéroport de pouvoir gérer cette situation.
Vous l'avez dit, il y a beaucoup à faire et c'est dans ce contexte que des Maliens demandent le départ des forces françaises. Est-ce que vous pensez que l'armée malienne à elle seule aujourd'hui est capable de faire face à la crise sécuritaire?
Vous voyez, même avec les forces étrangères, nous ne parvenons pas à mettre terme à cette chose. Surtout après le départ de ces forces étrangères. Vous savez, il y a une chose dans ce pays, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Si nous sommes à Bamako ici, nous mangeons tranquillement, nous dormons tranquillement, nous avons tout tranquillement à Bamako. On ne se rend pas compte de la réalité, de la vraie réalité de ce qui se passe dans le Mali profond. Le Mali profond, ce n'est pas le boulevard de l'indépendance. Le Mali profond, ce n'est pas les ruelles de Bamako. Le Mali profond, ce n'est pas les réseaux sociaux ou les radios où on vient s'asseoir et raconter de n'importe quoi. Qu'on renvoie les puissances étrangères. Bon, on peut les renvoyer, mais comment? Il faut que nous ayons une armée digne de ce nom. Il faut que nous ayons une armée qui aura l'effectif et les moyens pour pouvoir combattre ces terroristes. Donc maintenant, le grand problème, c'est quoi? Avec la présence de plus de 60 000 éléments sur notre territoire, nous ne parvenons pas à maîtriser même des petits villages qui sont assiégés. Nous pouvons gérer la situation de tout le Mali. Ce que moi je veux dire tout simplement, si ces forces étrangères tournent le dos, ce n'est pas l'armée malienne aussi qui va tourner le dos avec ces forces étrangères, mais c'est les populations des différentes localités qui vont tourner le dos avec ces forces étrangères. Et puis, il ne faut pas qu'on essaie de se distraire ou bien qu'on essaie de choisir ces forces étrangères. Au lieu qu'on parte accuser soit la France, la Russie ou l'Allemagne ou ces forces qui sont là, il faut que nous nous accusions nous-mêmes. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est nous. Nous sommes qui? Le peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est ceux qui sont à la tête de ce pays, qui sont en train de gouverner le pays aujourd'hui. Et là, les différents accords ou bien les différentes conventions qui avaient été signées entre nos autorités et puis ces forces étrangères ou bien les pays de ces forces étrangères, quand nos dirigeants les signaient, ils n'avaient pas des armes pointées sur leur tête. Il n'y avait pas de couteau sur leur gorge. Donc, ils ont signé ça parce qu'ils n'ont pas pu prendre le temps nécessaire qu'il faut pour bien lire les textes, voir si c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que nous avons l'habitude de dire dans ce pays. Nous croyons être des intellectuels, nous croyons faire des lectures, mais nous avons une maladie qui est la paresse intellectuelle. Nous ne prenons pas autant de temps pour pouvoir bien lire les choses, comprendre les choses, les conseillers et autres qui sont auprès de nos dirigeants. Je me pose souvent la question, est-ce qu'ils font bien leur travail ou bien ils sont là juste pour un poste et puis ne pas perdre le poste, laisser le chef signer tout et ne pas mettre le chef sur la bonne voie.
Et on va écouter Bandao qui s'est adressé à la nation, le président de la transition, qui a rappelé certains des engagements au niveau du secteur de la défense. Écoutons le président de la transition, Bandao.
Premièrement, l'accélération de la réforme du secteur de la sécurité. Deux, l'assistance aux populations civiles à travers les actions civilo-militaires. 3. Le renforcement des capacités opérationnelles des troupes. 4. Le renforcement partenariat avec les forces étrangères Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, UTM, UCAB. 5. Le renforcement de l'application stricte du droit international humanitaire. 6. La mise en place d'une stratégie de relance du volet défense et sécurité de l'accord pour la paix et la reconstruction issu du processus d'Alger. 7. L'adoption en cours d'une deuxième loi de programmation militaire en vue de consolider les acquis de la première loi. 8. Le renforcement significatif des moyens terrestres et aériens et la réalisation d'infrastructures prioritaires. 9. L'intensification des opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurisation et de protection des populations et de leurs biens.
Madame Assetoufoune Samake, bienvenue. Est-ce que cette déclaration, ces engagements qui sont rappelés par le président de la transition vous rassurent?
Merci bien. En fait, ce ne sont pas de nouvelles déclarations.
Ça fait partie des demandes exprimées par les Maliens en plusieurs lieux et en des moments différents. Donc, je me retrouve parfaitement dans ce qu'il est en train de dire. La question sécuritaire, la question des infrastructures, tout ceci, ce sont des vieilles demandes de tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays. Espérons que cela puisse être une réalité en fonction du temps imparti pour eux, tel que fixé par les Maliens et les amis du Mali. Donc je me retrouve dans ces déclarations parce que ce sont les demandes qui sont là, il y a un certain temps.
Il y a quelques instants, on parlait des relations entre civils et militaires au Mali. Est-ce que vous pensez, vous, que les civils maliens se sentent rassurés par leur armée?
Bon, et moi je poserais autrement la question. Dans un pays tel que le Mali, je ne vais pas raisonner en termes de civils et de militaires, en termes de ceux qui portent la tenue et ceux qui ne la portent pas. Je regarde les besoins du pays, je regarde le moment et les difficultés que nous traversons pour voir quel est l'homme ou la femme capable de comprendre les soucis du Mali et de les traduire dans les faits pour que nous puissions accéder à un mieux-être. S'il se trouve que c'est un militaire qui peut le faire, tant mieux. Si c'est un civil qui peut le faire, tant mieux. Mais aujourd'hui, mon point de vue, c'est que l'ensemble des Maliens puissent regarder dans la même direction, en fonction des défis qui se posent aujourd'hui à nous. C'est comme cela que je comprends aujourd'hui la situation. Je ne raisonne pas en termes de civils ou de militaires, en termes de femmes ou d'hommes, en termes de religieux ou de je ne sais quoi, mais qui aujourd'hui a compris l'état du pays, a saisi la demande des populations et qui est capable de nous proposer des solutions qui marchent. C'est là aujourd'hui toute la question pour moi. Et non des questions de tenue, de militaire ou autre.
Mais un des rôles de l'armée, c'est de sécuriser les populations. Est-ce que par rapport à ce rôle, les civils maliens se sentent rassurés?
Mais vous savez, M. Touré, il y a une thèse aujourd'hui qui mérite d'être. Tous ceux qui ont souci de la sécurité aujourd'hui sont en train de nous dire que les militaires seuls ne peuvent pas assurer la sécurité de ce pays. Et qu'il est fondamental qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons impliquer la société civile, donc les civils. La question de la sécurité est une question globale qui intéresse chacun, qui intéresse tout le monde à la fois. Si nous saisissons le sens de la sécurité aujourd'hui, je pense que et les militaires et les civils pourront faire ce que nous devrons faire. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous regardez un peu la géographie des conflits, mais ce ne sont pas les civils qui sont impliqués dans ces conflits. Comment pouvez-vous imaginer que des gens sortent, viennent de l'extérieur et s'implantent dans le pays et quittent des civils? Donc si nous voulons aujourd'hui cette sécurité, ce serait à la fois et les militaires et les civils pour assurer la sécurité et la quiétude dans ce pays. En cela, je dis non. Les militaires, ils sont dans leur rôle, bien sûr, de sécurisation de l'État, mais ils sont aussi dans leur rôle de gestion des affaires de l'État. La seule chose qui me semble être aujourd'hui essentielle, c'est qu'ils puissent avoir les capacités et les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes, certainement que beaucoup de civils n'ont pas pu résoudre, et qu'ils soient capables de mettre l'intérêt public, la cause commune au-dessus de leur intérêt personnel et individuel. À partir du moment où le savoir y est, la compétence y est, les capacités y sont, et qu'ils ont une certaine valeur vis-à-vis de la chose commune, je ne vois pas de différence entre un civil et un militaire. Mais justement, ce que je suis en train de d'énumérer, c'est ce qui a fait défaut à nous tous, nous les civils, et qui fait qu'aujourd'hui, les militaires sont venus dans l'arène politique et véritablement, les attentes sont fortes. Le temps nous dira si la chose, le choix a été bien fait ou pas, mais pour le moment, c'est l'histoire dans son présent qui est en train de se dérouler.
Alors, Mamadou Togola, l'armée et le pouvoir. Quel est votre regard sur ce sujet, l'armée et le pouvoir, surtout au Mali?
Bon, pour le cas du Mali, l'armée et le pouvoir, je dirais que l'armée, hein, en se référant et à sa définition, je pense que l'armée même, c'est le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, comme ça a été dit, hein, par rapport aux défis sécuritaires auxquels notre armée est en train de faire face, moi-même, je suis d'avis que les réponses n'est pas totalement militaire. Il faut véritablement une gouvernance assez inclusive, une gouvernance participative avec vraiment la pleine participation de toutes les sensibilités. Parce qu'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que nous voyons dans les régions du centre, du nord, avec l'étendue du territoire aussi, il y a un faible maillage sécuritaire. Donc on ne peut pas véritablement venir à bout vraiment de ces problèmes d'insécurité sans... Il y a bien entendu le renforcement de l'effectif, mais aussi, moi je pense que nous devons voir aussi, penser à la moralisation même des recrutements, parce que je pense que précédemment, on l'a dit, hein, il y a certains éléments des forces de défense et de sécurité qui sont à hauteur des cas d'exaction, mais il y a aussi des gens qui, des éléments des forces de défense et de sécurité qui sont quand même en train de se battre vraiment dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des droits humains, surtout dans le droit humanitaire international. Bon, l'armée et le pouvoir, je pense très bien que très souvent, bon, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, que nous constatons de façon générale, hein, c'est pas un investissement, mais une occupation de tout ce qui est post-stratégique par les forces de défense et de sécurité. Et je pense que c'est dû aussi en quelque sorte au contexte, mais au-delà de
ça... Est-ce que ça vous inquiète ?
Non, moi, du tout, ça ne m'inquiète pas du tout, parce que ce soit un porteur d'uniforme, et que ça soit une population incivile, et je pense très bien que les règles de gouvernance, si elles sont respectées, je pense que dans ce qu'on appelle la redevabilité, que ça soit un porteur, que ça soit un militaire ou bien un civil, je pense très bien que la personne puisse effectuer la mission dans l'atteinte des objectifs. Donc, en ce sens, je pense très bien qu'aujourd'hui, à écouter les discours de son excellence Monsieur le Président de la République, je pense très bien que le défi actuel, c'est de faire en sorte que les réformes annoncées, notamment la réforme du secteur de la sécurité, puissent être perceptibles au niveau local. Parce que jusqu'à présent, quand on parle de réforme du secteur de la sécurité, c'est vrai, au niveau national, au niveau des centres urbains, il y a beaucoup d'initiatives. Mais au niveau local, qu'est-ce que cette réforme du secteur de la sécurité représente pour un chef de village? Je pense qu'il y a des efforts aussi à faire dans ce sens. Et en ce sens qu'en 2019, je crois qu'il y a un décret qui a été signé, hein, consacré à la mise en place des comités consultatifs de sécurité dans toutes les communes, hein, du Mali, qui doivent être présidées par les élus.
Moi, je pense que... Si M. Konaté partage votre avis et celui de Mme Samake sur la question de l'armée et le pouvoir.
J'ai un avis un peu différent. Parce que quand vous posez cette question, je l'inscris dans les rapports entre l'armée et la gestion du pouvoir politique. C'est ça, le pouvoir politique. Particulièrement l'institution de la présidence de la République, l'institution du gouvernement, voilà, qui sont des instances politiques par excellence. Au vu de l'expérience malienne, c'est difficile de dire que l'armée, la gestion du pouvoir politique marche. Et au regard du contexte politico-stratégique international, la réponse est négative. C'est que ce n'est pas bon que l'armée ou des militaires encore en activité, donc en tenue, s'immisce ou assure des fonctions politiques. Et ça, pour deux, je donne seulement deux raisons. Il peut y avoir plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, hein, mais bon, en général, c'est que le militaire, il n'est pas d'abord formé pour ça. Il n'est pas formé pour gérer politiquement un État. Moi, je suis dans la formation militaire. C'est pas ça. Et il y en a, bien sûr, par digression professionnelle, ils sont intéressés par ces questions-là, ils s'inscrivent dans des écoles, et puis bon, mais fondamentalement, ce n'est pas ça. Leur rôle. Ils ne sont pas formés pour ça. Et deuxièmement, voilà, ce n'est pas leur mission, tout simplement. La mission est ailleurs. Donc, rien que ces deux raisons, vous savez, il s'est instauré progressivement dans la mentalité politique internationale que les militaires doivent se consacrer à leur mission fondamentale, qui est la défense, la sécurité nationale, tout simplement. Et au vu de l'expérience ou des expériences hein, à travers le monde aussi, hein, c'est que très souvent, les militaires qui sont venus au pouvoir ont eu tendance à s'éterniser.
– Est-ce que vous craignez cette situation cette fois-ci ?
– Au Mali, je ne le crains pas. Parce que nous avons un peuple bien aguerri, un peuple bien éveillé de ce point de vue-là, qui a démontré qu'il n'est pas soumis, hein, qu'il est capable de se tenir debout quand on va dans l'excès. Et je pense que les militaires l'ont bien compris. Je pense que ce n'est pas à exclure qu'ils puissent demander à prolonger cette transition. Ce n'est pas à exclure. J'ai même l'impression que c'est cela qui se prépare. D'accord. Maintenant, prolonger la transition ne veut pas
jusqu'à
dire...
Jusqu'à quand, par exemple ?
Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Ça, je l'ignore. Ce n'est pas un secret. Mais prolonger une transition ne veut pas dire s'éterniser. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont... c'est une hypothèse. Hein. Voilà, ils vont peut-être demander 3-6 mois ou 4 mois de plus. Ou, j'en sais rien. Mais donc, ce ne sera pas quand même s'éterniser. Alors, tout va dépendre de la façon ou la méthodologie par laquelle ils vont gérer tout ça. Pour l'instant, leur démarche n'est pas rassurante. Elle n'est pas rassurante du tout. Ça fait bientôt quoi, 4 mois qu'on est dans cette transition. Certains diront oui, c'est trop tôt, mais pour moi, ce n'est pas trop tôt. Hein. Moi, je suis de notre avis. Vous avez une mission, vous avez un chronogramme bien déterminé. C'est votre responsabilité de vous organiser dès le jour 1 de commencer à poser des actes.
Et est-ce que Mohamed Mamata Touré partage votre avis sur la gestion des affaires politiques par l'armée, par des militaires ?
Bon, vous savez, comme vous l'avez dit, la gestion politique et puis l'armée, pour moi, c'est deux choses différentes. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons que notre armée se trouve dans une telle situation, c'est dû à l'avènement de la démocratie. Sinon, même les présidents qui avaient été démocratiquement élus. Il faut voir en 1992, quand le président Alpha Omar Konaré avait organisé la flamme de la paix à Tombouctou. Ils ont brûlé nos armes. Après, les équipements aussi qui étaient là avec nous, ils ont essayé de détruire ça. Donc jusqu'en 2020, jusqu'à Ibeka même, on a vu que les missiles russes et autres que nous avions, les MiG, ils sont où ? On ne les voit plus, on ne les retrouve plus. Donc nous allons dire juste que les démocrates nous ont dit qu'eux, ils n'ont pas en démocratie, nous n'avons pas besoin d'une armée forte qui est prête pour une guerre, mais nous aurons besoin d'une armée qui sera une armée pour le développement. Le développement, quel développement ? Donc aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes plongés dans cette crise, c'est dû au pouvoir politique. Et hier, le militaire, il était fier de sa tenue. Il était fier d'être un militaire. Il était fier d'aller sur les théâtres d'opération, se battre et mourir pour la nation, pour sécuriser le territoire, pour sécuriser les personnes et leurs biens. En ce moment, le militaire ne connaissait pas ce que c'est que l'argent, parce que le militaire, on ne l'avait pas mis dans la gestion de l'argent. Et c'est le pouvoir politique qui a transformé le militaire en homme politique. C'est pourquoi nous disons beaucoup de fois que l'armée a été politisée. Les militaires ne sont pas venus d'eux-mêmes dans la politique parce que les politiciens qui étaient là, ce sont eux qui ont détruit l'armée en disant qu'ils veulent une armée de développement et une armée...
Est-ce que c'est la volonté de vouloir changer les choses qui a amené les militaires dans la politique ou est-ce que c'est l'argent, comme vous le disiez tout de suite ?
Bon, vous savez... Si nous parlons de la démocratie malienne, cette démocratie malienne, elle est faite sur l'argent. parce que tout un chacun vient avec son petit geôlier et parti politique pour pouvoir profiter de quelque chose du pays. Mais au contraire, qu'est-ce qu'eux, ils donnent au pays ? On voit tous ceux qui ont passé dans leur majorité, au lieu de faire quelque chose pour la nation, ils ont été à la base de l'effondrement de ce pays. Donc maintenant, cette démocratie aussi qui est là, vous voyez, on parle de loi de programmation militaire, les 1230 milliards qui avaient été détournés autres là. Mais qui a appris à ces militaires, à ces grands officiers de savoir jouer entre les sous pour pouvoir soutirer quelque chose, détourner ou faire les surfacturations? Donc, si vous voyez, on dit que ça, c'est une stratégie, un réseau mafieux qui était là. Donc, le militaire s'est trouvé dans quelque chose et dans laquelle il ne pouvait même plus s'en sortir. Et le militaire s'est vu enfoncé par des hommes politiques qui étaient là. Et comme on le dit, et il y a des civils et il y a des militaires.
Il nous reste 4 minutes, dernier tour de table, 1 minute pour chaque invité. On commence par vous déjà. Que faut-il aujourd'hui pour avoir une armée qui répond aux attentes des Maliens aujourd'hui ?
Pour avoir une armée qui répond aux attentes du Mali, il faut que nos dirigeants soient des vrais dirigeants. Il faut que nos dirigeants prennent toutes les mesures, toutes les précautions pour pouvoir signer des bons traités, des bons accords gagnant-gagnant entre le Mali et puis les autres partenaires. Et il faut que cette armée essaye de rapprocher la population, être des complices de la population pour montrer à la population qu'eux, ils ne sont pas une armée criminelle, mais qu'ils sont une armée au service de cette population.
Ce sont ces mêmes engagements et déclarations qui sont faites par les différentes autorités. Comment faire pour que ça ne reste pas des engagements, que ça soit traduit en actes ?
Bon, pour que ça soit traduit en actes, ce déficit de communication qui existe entre les autorités et puis nous, population, ou bien entre l'armée et puis nous, il faut que ce déficit de communication soit brisé.
À vous, M. Togola.
Bon, pour que nous ayons une armée fiable, je pense très bien qu'il faut d'abord commencer à la base, hein, c'est-à-dire la moralisation des recrutements. Et au-delà de ça, la gestion hein, des ressources au sein de l'armée, c'est-à-dire le budget de l'armée, il faut qu'il y ait un suivi rigoureux. Mais au-delà de ça aussi, l'armée doit travailler vraiment à démystifier son image vis-à-vis de la population, qu'elle puisse être vue par les populations comme une force protectrice et non comme une force prédatrice. Donc, et au-delà de ça, il faut aussi parvenir à rendre accessible tout ce qui est réforme du secteur de la sécurité, que les dividendes soient perceptibles par les populations. Réduire aussi cette distance-là entre les populations et les communautés pour que les populations puissent travailler en symbiose hein, avec les forces de défense et de sécurité. C'est en cela que les FDS peuvent intervenir de façon efficace. Donc il faut qu'il y ait ce partenariat-là entre population et force de sécurité, cette proximité. Mais au-delà de ça, je pense que le problème n'est pas uniquement du côté des forces de défense et de sécurité. Il faut travailler aussi du côté de la population, que chaque individu, chaque population puisse se comporter, sinon considérer qu'elle est aussi responsable de sa sécurité et détient une partie de la sécurité de son voisin.
À vous, M. Konaté.
Oui, que les populations s'impliquent, mais oui aussi que les populations revendiquent. La part importante, principale de la sécurité qui revient à ceux qu'ils payent pour ça. Le civil n'est pas naturellement en armes. C'est le militaire qui l'est. On lui paye des armes, on paye sa formation pour ça, et il faut qu'il assume sa santé principale. Bien sûr, la population doit accompagner. Je suis d'accord. Doit informer, doit participer. Et au-delà de ça, comme dernier mot, je pense que pour qu'on ait une armée efficace et très opérationnelle, il faut commencer par prioriser nos priorités. Il faut commencer par ça.
C'est-à-dire
et ça fait parler à la gouvernance. Vous venez d'entendre le président de transition. Il y a presque une dizaine de mesures qu'il a citées, et des mesures gigantesques, titanesques, j'ai envie de dire, hein, pour le temps qui est accordé à la transition, hein, pour réformer le secteur de la sécurité.
À vous, Madame Samaké. Il nous reste juste 1 minute bon, pour Madame Samaké. Allez-y.
Monsieur Touré, c'est dommage. Avant de dire mon dernier mot, moi, je voudrais vous dire que le visage de l'armée a beaucoup changé dans notre pays. Nous avons des hommes qui savent autant que ceux qui prétendent savoir. Et non seulement ils connaissent la science militaire, mais ils sont dans les autres domaines de la science. j'en sais quelque chose pour avoir été aux affaires par rapport à la question de la connaissance et du savoir. Et pour vous dire que parfaitement la chose politique, il la maîtrise au même titre que les civils. Je suis d'accord, il porte les uniformes. Mais pour répondre rapidement à votre question, vous savez, notre mal aujourd'hui, c'est d'essayer de surfer sur la complexité des faits en les ramenant à des choses très simples. La prise de décision est une activité très complexe, très compliquée. Très généralement, quand on n'en a pas l'expérience, on peut parler à son aise. Mais quand vous avez 1000 solutions et vous devrez faire la synthèse et prendre une seule décision, non seulement vous n'êtes pas seul à le faire, mais vous êtes avec d'autres qui viennent avec leurs connaissances et aussi leur inclinaison. Donc c'est très très difficile par rapport à cela. Et pour dire, vraiment, moi je pense que dans des débats pareils, il serait bon d'être plus pédagogique en essayant de donner des explications qui vont permettre aux uns et aux autres de comprendre. Mais malheureusement, quand on se retrouve sur des plateaux comme ça, eh bien, ce sont des choses qu'on avance sans pour autant se soucier que d'autres sont en train de nous écouter et que véritablement notre rôle ici, c'est à la fois l'information, mais aussi c'est l'éducation. Donc, en tant qu'enseignant de formation, il y a certaines choses, M. Touré, je souhaiterais qu'on les explicite pour que les uns et
les autres puissent comprendre. Merci, et le temps nous fait défaut. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, c'est la mission de Studio Tamani. Vous nous suiviez en direct sur 85 radios à travers le pays, en live sur Facebook et ce soir à partir de 23h sur Renouveau TV, 21h30 sur Renouveau, sur Énergie TV. Nos invités, merci à toutes et à tous, Mahamadou Konaté, directeur général du Conseil Donko pour la gouvernance et la sécurité, Madame Assetou Founé Samaké, ancienne ministre femme politique, Monsieur Mahamadi Togola, coordinateur national de WANEP Mali, et Monsieur Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. À la régie vidéo et audio, Noum Diré et Peting Diara, je suis Mohamadou Touré, c'est ce qui met fin à cette édition spéciale qui vous a été présentée par toute l'équipe de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halid Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani.
Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi à 17h sur les antennes de nos radios partenaires.
Studio Tamani, Aunice Anga Laseli Nunun Lameni Koso. Aukambe, Nege Kanyetan Wulun Flaogati, Ni Radio Sokele Nunun Sanfe.
Studio Tamani, pour fonda Gwenda Hangajero Kawarnati. Irga cera kube ala sar guri gudi maga ara jo folla ke da jindega
Studio Tamani. Studio Tamani.
Studio Tamani. Jawon al khair jen yisjirin sala nana نكفي وانا السهارة شلي الاستاد ويت غرسا غطوان مراود جسا فلرجو تنتين تمارها لننا غرد نسنت